un petit coup de fil à la radio pour nous raconter quel est le programme de votre journée et pour vous remercier de nous être fidèles, on vous offre un beau poste de radio aux couleurs de la station 0810 055 056. Merci d'être des nôtres ce matin.
Ici, une radio, une appli connectée à notre région.
Nous sommes le mardi 3 mars. Bienvenue ici, 5 heures. Le journal vous est présenté par Valentine Lottès et à la une, la voix des Français du Moyen-Orient.
Ils sont 400 000 sur place selon le ministère des Affaires étrangères, soit en voyage, soit résident, comme Ludivine, originaire de Béziers. La Française vit à Dubaï depuis 3 ans où elle insiste, impuissante à la guerre.
Je suis de nature assez positive et optimiste, mais j'ai peur. J'ai peur, je m'inquiète, bien sûr. Surtout quand c'est la première fois qu'on est confronté à ça. Tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas un jeu d'être dans la paix. On se rend pas compte quand on est en France, un truc comme ça. Bon, c'est sûr, il y a toujours des insécurités, des incivilités, des choses comme ça. Mais là, être confronté à ça, moi, je pense à vraiment des gens qui sont dans des pays vraiment au centre. Enfin, là, ceux qui sont en Iran, ceux qui sont qui étaient à Gaza, ceux qui sont en Ukraine, enfin, dans tous les pays en conflit, moi, je me dis, ça doit être terrible, quoi. Parce que là, bon, on se plaint parce qu'on découvre finalement en étant privilégié. Mais je me dis, j'ai peur, mais j'ai de la chance.
Ludivine, depuis les Émirats arabes unis, frappée par l'Iran, tout comme d'autres pays du Golfe. Cette nuit, c'est l'Arabie Saoudite et son quartier des ambassades qui a été visé par une attaque de drone. L'image de celle des États-Unis en flammes à Riyad a fait le tour des réseaux sociaux. Tous les Américains de la région sont appelés à quitter le Moyen-Orient, malgré les milliers de vols annulés dans les aéroports du monde. 130 rien que ce week-end à Paris, pour Orly et Roissy, soit 35 000 passagers touchés. De premiers Français ont justement atterri à Paris hier soir. Par précaution, la sécurité en France des opposants au régime iranien est également renforcée sur décision du ministre de l'Intérieur.
Ici, 5h02, des peines de prison confirmées au second procès sur l'attentat de Samuel Paty.
15 ans de réclusion criminelle contre le militant islamiste, auteur d'une campagne de haine visant le professeur sur les réseaux sociaux. Des 4 hommes jugés en appel, c'est le seul dont la peine n'a pas été revue à la baisse. Il annonce pourvoir en cassation. Le père de la collégienne à l'origine de la rumeur sur son professeur écope lui de 10 ans. Devant le tribunal correctionnel de Soissons, à partir d'aujourd'hui, une affaire dont on a beaucoup parlé il y a maintenant plus de 6 ans, la mort d'Elisa Pilarski, enceinte de 6 mois lorsqu'elle est retrouvée morte dans une forêt de laine, couverte de morsures de chiens. Son compagnon accuse une meute de chasse présente sur place, mais la justice soupçonne plutôt son propre chien, un pitbull de 8 ans. C'est donc son maître Christophe Ellul, compagnon d'Elisa, qui est jugé aujourd'hui, Manon Lombard-Brunel, pour homicide involontaire.
Accusés de graves négligences qui ont toutes conduit, selon le juge d'instruction, à la mort d'Elisa Pilarski. À l'automne 2019, la jeune femme promène seule le chien de Christophe Ellul. Vers 13h20, elle l'appelle, paniquée, attaquée, selon son compagnon, par une meute de chiens. Il quitte son travail, se rend sur place et découvre le corps de sa compagne. Elle est couverte de morsures, une trentaine. Christophe Ellul accuse d'office la vingtaine de chiens de chasse présents au même moment, version encore défendue par son avocat. Maître Alexandre Novion estime que tout est fait pour présenter son client et son chien comme les coupables idéaux.
Il y a quand même eu une application systématique pour faire de Christophe un sale bonhomme et quelqu'un avec qui on s'est amusé à faire parfois un peu trop réfléchir la mauvaise réputation de la catégorie de son chien et lui-même.
Reste que dans le dossier, toutes les expertises concluent que Curtis est à l'origine de l'attaque. ADN, comportementaliste canin, les traces de morsures aussi correspondent aux empreintes de la mâchoire du pitbull, un chien interdit en France, importé illégalement depuis les Pays-Bas par son propriétaire, chien entraîné tout aussi illégalement à mordre, présenté comme dangereux par les experts. Face à lui, Elisa Pilarski, 1m55, 55 kilos, enceinte de 6 mois, ne pouvait rien faire, et ça, selon le juge d'instruction, Christophe Ellul ne pouvait l'ignorer.
Et l'ancien compagnon d'Elisa Pilarski encourt jusqu'à 10 ans de prison. Le feu vert à la création de la future ligne de train à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux. Le Conseil d'État rejette le recours déposé par des opposants. Il est conforme une seconde fois l'utilité publique du projet. Cette ligne permettra de relier Paris à Toulouse en 3h10 d'ici 2032.
À vos souhaits.
Ah, la vôtre aussi. Hein. Vous êtes merci. Nombreux en ce moment, le nez dans les mouchoirs et les yeux rougis par les pollens. Avec les températures printanières et le vent, les pollens de graminées et d'aulnes traversent la France. Cette pharmacienne de Toulon, Nadine Sauvant, nous explique comment calmer l'allergie ce matin.
Le bon conseil, c'est de se laver les cheveux le soir avant de se coucher, ainsi que le visage, et de faire un spray d'eau de mer dans le nez, tout simplement pour éliminer tous les pollens que nous avons sur nous, et pour éviter de les déposer sur l'oreiller et les respirer toute la nuit. Ce qu'on peut faire si on ne prend pas la douche le soir, c'est avec une brosse à cheveux ou un peigne, le passer sous un filet d'eau, et se brosser les cheveux avec déjà avant d'enlever les trois quarts des pollens. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment la toilette du soir pour s'en débarrasser, et dans la journée, évidemment, un traitement antihistaminique, mais ça, il faut aller voir le médecin.
Bon courage aux allergiques. Nous allons au moins continuer à profiter de ces températures dignes du printemps.
Ça va, vous ? Pas d'allergie de...
Pas encore.
Non.
C'est
non.
Pas les bons pollens pour moi qui circulent. Bon. La météo, Johanna.
Ce mardi, c'est une nouvelle journée printanière avec ou sans pollen, avec une large partie du pays qui va voir le soleil quasiment pour tout le monde. Au lever du jour, attention sur les routes, quelques brumes et des brouillards qui entraînent un manque de visibilité. Quelques gelées matinales aussi sur les campagnes. Et de la grisaille au-dessus du Languedoc-Roussillon pour le reste du pays. Le ciel sera dégagé ce matin. Des températures d'une grande douceur, 5 degrés à Limoges, 8 à La Rochelle, 6 dans la capitale ce matin, 11 degrés à Montpellier. Et puis cet après-midi, la douceur devrait atteindre son pic de la semaine jusqu'à 20 degrés en Aquitaine. Soleil pour tout le monde, donc, à l'exception du Languedoc-Roussillon, où les nuages seront de plus en plus nombreux et un mercure qui affichera dans l'après-midi 13 à Aurillac, 18 à Toulouse et Paris, 17 à Rennes, Rouen et Lille, 19 à Biarritz. Et chez vous, quel temps fait-il ? Eh bien, vous nous postez un petit message sur la page Facebook d'ici, le nom de votre commune, l'endroit où vous résidez, donc une température, une photo si vous voulez, tous les matins, ici, on fait la météo ensemble.
Ici,
local, musique et bonne humeur.
5h07, le moment idéal pour parler sentiments avec Alain Souchon, l'amour à la machine, bon début de journée à l'écoute d'ici.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait. L'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'or. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle
5h10, le soleil n'est pas encore levé, vous aussi, et c'est tant mieux ce mardi, vous êtes bien ici.
Ici, dès 5h,
Johan Rock,
Valentine Letesse.
Voilà une compagnie ferroviaire qui va vous faire aimer la SNCF. Ça s'est passé en Suisse le week-end dernier. Une jeune femme qui devait parcourir le trajet Berne-Zurich, ligne très fréquentée, a préféré acheter son billet en première. Elle se dit, bon, comme ça, même s'il y a du monde, je paie un peu plus cher, mais au moins, je suis tranquille. Et c'est vrai que 50 euros pour faire 100 km, c'est pas donné. Mais au moins, elle était assurée d'avoir une place dans le train. Que nenni ! Ce jour-là, les wagons du train étaient pleins à craquer. Même avec son billet de première, cette cliente a été contrainte de voyager assise par terre.
Mais non !
Mais oui, parce
que scandale.
En Suisse, les billets ne sont pas assortis à une réservation, ce qui veut dire qu'on peut vendre plus de places qu'il y en a dans le train. Et en descendant du train, la cliente a déclaré « Mon voyage a été vraiment très intense ». Et ben voyez, c'est à cette remarque qu'on reconnaît la pondération d'un voyageur helvétique, parce que chez nous, en France, un client SNCF qui paie son billet en première pour voyager assis sur le porte-bagages, il en aurait des mots pour qualifier son expérience client, comme on dit, mais c'est pas forcément intense qui lui viendrait tout de suite.
Ça, c'est clair.
À la bouche. Et vous, vous diriez quoi ?
De gros mots.
Bon. Courage à vous si vous prenez le train ce matin. Courage aussi à tous ceux qui ont subi les inondations de ces dernières semaines. Nous sommes à leur côté ce matin, Valentine.
Oui, en Loire-Atlantique, où la décrue de la Loire est amorcée et où on commence enfin à nettoyer. Reportage dans 5 minutes.
Et dans la playlist de votre début de journée ce mardi, les années 80. Se rappellent à vous, Sandra, Maria Magdalena. C'est le titre. En attendant, il est temps de faire quelques économies.
Ici, les économies, avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Bonjour Valère Coréard, avec vous chaque jour un bon plan pour gagner en pouvoir d'achat. Et ce mardi, vous nous parlez de la réforme de la prime d'activité.
Oui, elle est définie sur le site du ministère du Travail, cette prime. Un complément de revenu destiné aux actifs dès l'âge de 18 ans, qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants. Elle complète les revenus des travailleurs modestes afin d'encourager l'exercice ou la reprise d'une activité professionnelle et de renforcer le pouvoir d'achat. Et bonne nouvelle, cette prime va être revalorisée à compter du 1er avril prochain avec une augmentation de 50 euros par mois en moyenne. Alors c'est pas extraordinaire, mais enfin c'est un petit coup de pouce. Et comme les augmentations sont rares, je suis toujours content de les partager avec vous. Sachez que vous y avez droit si vous travaillez et que vous ne gagnez pas plus de 2000 euros net en vivant seul ou 3450 euros pour un couple avec deux enfants avec une seule personne qui travaille.
Et alors, comment est calculé le montant de cette prime d'activité ?
Alors, ça dépend des ressources du foyer, les salaires, les prestations sociales, etc., de sa composition aussi, de la situation du logement également. C'est la CAF, en fait, qui fait ce calcul. Mais pour vous donner une idée, une personne seule sans enfant pouvait toucher 633 euros jusque-là. Donc, à compter du 1er avril, les règles vont évoluer. Et je pense que ça peut être intéressant de voir si vous n'y avez pas droit ou si vos droits changent, tout simplement. Le ministère a mis un exemple pour qu'on comprenne bien. Avant la réforme, un célibataire sans enfant qui gagnait 2032 euros net par mois n'avait pas droit à la prime. Bientôt, il aura droit à 56 euros par mois. Ce serait dommage de passer à côté de 56 euros par mois. On est d'accord. Alors n'oubliez pas que je suis à votre écoute pour toutes vos remarques ou questions sur le thème du pouvoir d'achat avec un mail pour me contacter par ici leséconomies@radiofrance.com.
À demain, Valère, pour un nouveau bon plan pour faire des économies. Vous nous direz quels sont les supermarchés les moins chers près de chez soi. En attendant, vous écoutez ici. Il est 5h13. Bon réveil.
Ok, on y va. Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique en live. Ce jeudi, vous allez adorer le concert de Claudio Capeo, enregistré au Ici Live des Angles.
Si je m'endors,
Claudio Capeo, en live aux Angles, un moment unique.
Ça va sur ma planète.
Ici, ce jeudi, dès 20h. Ici, dès 5h.
Commencer la journée.
5h14, le cauchemar n'est pas encore terminé dans les territoires inondés.
La décrue se poursuit à l'ouest de la France, comme à Oudon, en Loire-Atlantique, l'un des secteurs les plus touchés par la crue de la Loire, Céline Loiseau, et où les agents municipaux démarrent seulement les premières opérations de nettoyage.
Place du marché, le Karcher est de sortie. Les agents communaux récupèrent aussi du matériel prêté à certains commerçants.
On va enlever les parpaings pour remettre les meubles à terre. Alors, les opérations de nettoyage, pour l'instant, se situent beaucoup sur l'espace public afin de réouvrir les routes qui ont été impactées par les inondations.
Sébastien Rabot est responsable du pôle aménagement à la mairie d'Oudon.
Et la deuxième partie, ça va être dès qu'on aura le feu vert, c'est procéder aux opérations de nettoyage des bâtiments communaux.
Car il faut attendre le passage de l'expert de l'assurance, mais il sait déjà qu'il y a des dégâts.
Notamment dans une salle où il y a le parquet qui est complètement soulevé par le mot qui est rentré dans le bâtiment. Là, il y a un beau chantier de renouvellement complet du parquet. Donc
8 bâtiments communaux, selon lui, sont concernés par les inondations.
Ça va être des vestiaires, des terrains de foot, des salles communales.
Il y a ce qu'on voit déjà et il faut s'attendre à de mauvaises surprises au fil des jours.
Ça peut être des équipements métalliques qui vont peut-être être amenés à rouiller, ça peut être des placos qui vont être foutus puisqu'ils auront pris l'humidité, donc vont être déformés, qu'on ne pourra même pas repeindre par exemple, ça va être des éléments comme ça. Et plus qu'on ne voit pas, l'isolation.
Place du marché, il faudra également vérifier les branchements électriques pour les commerces ambulants. Autre chantier attendu, au niveau du camping municipal, encore inaccessible en partie hier. Autant d'heures de travail de nettoyage et de réparation dont le coût n'est pas encore chiffré.
Un chiffrage tout de même ce matin, celui des dégâts de ces deux tempêtes successives. Niels le 12 février, puis Pedro le 19. Les dommages causés par leur pluie et ces crues exceptionnelles sont estimés à 1,2 milliard d'euros par France Assureur et la Caisse Centrale de Réassurance.
Et vous retrouvez toute l'actualité près de chez vous sur le site de la radio ici.fr. Koh-Lanta est de retour. Le jeu d'aventure revient ce soir sur TF1 et on en parle dans les coulisses TV avec Denis Brognard, notre invité ce mardi dans moins de 2 minutes. Elle, c'était la star des hit-parades des années 80. On la voyait partout, dans les magazines. Toutes les radios jouaient ses tubes. Ce matin, je vous présente Sandra. Comment ça, Sandra comment? Sandra tout court. Enfin, voyons, c'était Sandra, son prénom. Et Maria Magdalena, le titre de cette chanson qu'on écoute. Il est 5h16. Bon réveil à l'écoute de votre radio locale, ici, évidemment. toujours un plaisir de vous savoir de l'autre côté du poste. 5h20, vous écoutez ici. C'est en 3 mars qu'ils sont nés. Le comédien belge Stéphane de Groot fête aujourd'hui ses 60 ans avant de passer sur le grand écran. C'est à la télé qu'il s'est fait connaître grâce à ses portraits de célébrités, à l'humour absurde, truffé de jeux de mots que n'aurait pas renié son idole Raymond DeVos. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'actrice américaine Jessica Biel et de la danseuse et chorégraphe Fauve Otto, révélée dans l'émission Danse avec les stars. Et puis, un 3 mars 44 également, un jeune inconnu marseillais faisait ses premiers pas sur la scène d'une toute petite salle de music hall parisien. Son nom, Yves Montand. Il y a 9 ans, un joujou nouveau du genre tout coloré, la Switch de Nintendo, la console portable fétiche des ados et des adultes, voyait le jour. Et puis enfin, Carnet Noir, c'est un 3 mars que s'éteignait le romancier Léo Mallet. On le connaît parce que c'est l'inventeur du personnage détective Nestor Burma, incarné quelques années plus tard par Guy Marchand à la télé. Puis un autre auteur culte tirait lui aussi sa révérence il y a pile 43 ans, Hergé, le papa de Tintin qui disparaissait. Valentine, un album préféré de Tintin, vous, dans votre collection?
Opération Lune, je sais plus comment ça s'appelle.
Voyage autour de.
Je sais plus comment ça s'appelle. On voit la fusée rouge et blanche, la belle couverture avec le champignon là, mais je me rappelle plus du nom.
C'était Voyage au bout de la Lune. Peut-être, si vous avez le titre, 0810 055 056. Tintin, ça fait partie du patrimoine, même si on connaît pas exactement les titres.
Ici, dès 5h.
5h21, lui on connaît son nom, Patrice Gascoigne et ses coulisses télé. Aujourd'hui Patrice, vous allez faire plaisir aux fans de Koh-Lanta qui nous écoutent. Le jeu d'aventure de TF1 revient enfin pour une nouvelle saison et vous nous en parlez en compagnie de Denis Brognard.
Il est revenu le temps, non pas des cathédrales, mais de Koh-Lanta.
Habituellement dans Koh-Lanta, le conseil c'est là où tout se termine. Et bien ce soir, c'est là que tout va commencer.
Denis Brognard nous plonge directement dans le bain de la saison 2026 de Koh-Lanta, les reliques du destin, qui débute ce soir sur TF1. La dernière édition s'était arrêtée en juin 2025. Et bien, j'ai l'impression que ce petit break a redonné le goût de l'aventure aux téléspectateurs. On sent une hâte de revoir des aventuriers en bavé. Et vous n'allez pas être déçus. 20 candidats, 2 équipes, une dizaine d'épreuves inédites. Et puis, une antre du destin que je vous laisse découvrir ce soir. Vous allez voir dans cette saison de magnifiques plans aériens, notamment, et ce qui est plus rare, des plans nocturnes. Ces plans sont rendus possibles par l'émergence, côté production, de drones qui embarque des caméras pour réaliser ces plans sublimes. Denis Brognard nous explique l'importance qu'ont pris ces drones dans le tournage d'une saison de Koh-Lanta.
Bah c'est extraordinaire. Il y a 2 évolutions notables, c'est les drones et les GoPro. Avant, toutes les images aériennes, c'était des hélicoptères. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune image d'hélicoptère. Toutes sont faites par des drones. On a un droniste qui est absolument génial et qui a plusieurs drones à sa disposition. Il est là sur toutes les épreuves. C'est lui qui va aussi un peu partout dans la zone dans laquelle nous tournons faire des plans d'animaux, des plans de végétation. Enfin, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et moi, je suis toujours bluffé par ces plans-là. Le début, quand je dis il n'en restera qu'un et qu'il y a le dézoom, avant c'était fait par un hélicoptère. Aujourd'hui, et depuis des années maintenant, c'est vrai, c'est un drone qui en a la responsabilité. Je suis toujours fasciné de ça. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait que sur les épreuves, il y a entre 20 et 25 GoPro qui sont placés sur les obstacles. Et regardez bien sur chaque épreuve, notamment sur les épreuves où il y a du mouvement, regardez bien combien on arrive à être en immersion grâce à ces GoPro. Et je trouve que ça rend le montage beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique. J'ai envie de dire merci à la technologie, merci aux drones et merci aux GoPro.
Grâce à Denis Brognard, vous en savez plus sur les nouvelles techniques de tournage pour vous offrir ces magnifiques images de Koh-Lanta. Nouvelle saison, les reliques du destin ce soir sur TF1. Quant à mon destin, c'est de vous livrer de nouvelles coulisses télé demain.
À demain, Patrice Gascoigne, pour de nouvelles coulisses télé. Valentine, vous serez devant votre poste de télé, vous, ce soir?
Évidemment, pour la première de Koh-Lanta. Et puis, juste après, je refermerai Objectif Lune de Tintin.
Effectivement, en bon tintinophile, nous avons retrouvé le nom de cette BD. Il est 5h24, peut-être êtes-vous en train d'engloutir vos céréales. Mais savez-vous qu'au Moyen-Âge, on avait beau manger avec ses doigts, la nappe, elle, était toujours nickel. Une précision qui a son importance et dont on va parler dans un instant avec Stéphane Bern et son voyage dans le temps. Voici Amir, le nouveau avec toi sur les ondes d'ici.
Je sais bien que t'as voyagé dans les plus beaux pays, goûté les plus beaux hôtels et les grands lits. Près de lui, le chemin du bonheur est bien droit. j'ai compris. Avec moi, c'est vrai que notre lit sera plus petit. Parce que je veux que tu sois plus proche de mes bras. La route vers le bonheur sera plus longue aussi. Juste pour avoir plus de temps. De bijoux, de parures, de tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui. Vous vivez dans le plus bel appart de la rue. J'ai compris. Avec moi, t'as pas besoin de tout ça puisque rien ne t'habille. Nous on vivra au-dessus du monde sur les toits. Et de toute façon les bijoux ça s'abîme. Le seul qui compte sera la nôtre.
h 28, une nouvelle journée qui débute et votre radio ici qui vous accompagne chaque matin, un petit peu d'histoire avant l'actualité avec vous Stéphane Bern qui nous fait remonter le temps, celui des seigneurs et des nappes brodées ce mardi.
Des mains grasses, du vin qui coule et des nappes bien blanches. Au Moyen-Âge, on mange avec les doigts, mais attention, toujours avec style. Nous sommes en 876 à l'abbaye de Compiègne. Ce jour-là, l'empereur carolingien Charles le Chauve reçoit une belle assemblée. Hauts dignitaires, prélats, barons et abbés. Le carré VIP de l'époque.
Carré VIP, le plus dur n'est pas d'y entrer, mais d'y rester.
Avec capes et couronnes, est réuni pour un banquet somptueux. Les longues tables en bois sont couvertes de nappes d'un blanc éclatant et fraîchement lavées. On y sert viande rôtie, poisson en sauce, miche de pain, fromage, hydromel et bon vin. Et pourtant, aucune fourchette à l'horizon. À cette époque, les couverts ne sont pas encore en usage dans les festins aristocratiques. On utilise une cuillère pour les bouillons, un couteau pour couper, mais pour manger, on plonge directement les doigts dans les plats, à la bonne franquette. Cela peut sembler rustique, mais détrompez-vous, la bienséance est très codifiée. Avant de s'asseoir à table, chacun doit se laver les mains dans un bassin d'eau parfumée. Une fois installé, on s'essuie régulièrement les doigts, non pas sur ses habits, sacrilège, mais sur la nappe, en respectant sa zone. Car si vous dérapez et essuyez vos doigts sur la partie du voisin, vous passez pour un goujat.
En plus, elle est mal élevée.
Quelques siècles plus tard, lorsque Catherine de Médicis arrive en France avec ses fourchettes italiennes, les Français restent fidèles à leurs doigts. Ce n'est que sous Henri III au XVIe siècle que l'usage des couverts s'impose peu à peu. La prochaine fois que vous mangez vos frites avec les doigts, ayez une pensée pour Charles le Chauve.
Bon petit déjeuner à vous chaque matin. Stéphane Bern vous donne rendez-vous ici.fr pour retrouver toute la collecte des voyages dans le temps en replay. Et si on jouait ce matin, ce mardi, vous êtes les bienvenus sur l'antenne d'ici. Venez nous raconter, tiens, quel sera le programme de votre journée. 0810 055 056. Pour vous remercier d'être des nôtres dès le matin, on vous offre un très très beau poste de radio aux couleurs de votre station. Pour l'heure, 5h30, l'info en France et dans le reste du monde, c'est l'heure du 90 secondes qui vous est présentée par Valentine Le Tesse.
Une ambassade des États-Unis en flammes. L'image nous vient de Riyad en Arabie Saoudite où l'Iran a envoyé cette nuit des drones d'attaque. La guerre s'étend à de nouveaux fronts dans la région du Golfe depuis son déclenchement ce week-end par une opération des États-Unis et d'Israël. Et les prix de l'énergie s'envolent. Après le pétrole, celui du gaz naturel sur les marchés européens flambe. Conséquence de l'arrêt de la production de GNL par la compagnie publique du Qatar, attaquée hier par l'Iran. À la pompe de première hausse sur le prix des carburants en France sont pressentis d'ici deux semaines. Aux opposants du régime des mollahs en Iran, la France promet tout son soutien et renforce la protection policière des personnalités et associations menacées. Les services de renseignement français redoutent des attaques sur notre sol téléguidées par Téhéran. Une expertise médicale de Tariq Ramadan ordonnée par la justice. L'islamologue absent au premier jour de son procès hier à Paris pour le viol de trois femmes est en Suisse. Hospitalisé à Genève selon ses avocats, il demande un nouveau report de son procès. Choquante, le syndicat CFTC ne comprend pas la proposition d'augmenter le salaire du patron de la Société Générale de 45% pour atteindre 2 400 000 euros par an. Un décalage abyssal selon le syndicat par rapport à l'augmentation d'1,5% accordée aux salariés du groupe bancaire. Le premier quart de finale de Coupe de France de foot ce soir. Vainqueur de l'AS Monaco, les Alsaciens du Racing Club de Strasbourg ouvrent le bal. Ils affrontent le seul club de Ligue 2 encore en lice, Reims. Le coup d'envoi, c'est à 21h.
Ici, 5h32, l'info du jour, ce sont les premiers retours de Français du Moyen-Orient.
Des expatriés installés au Liban et à bord de cet avion arrivé hier à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en provenance de Beyrouth, ou encore ces touristes, Yvan Plantaille, tout juste de retour d'Abu Dhabi.
Guillaume traîne ses deux valises et tient en même temps la main de sa fille. Tout sourire malgré ses yeux cernés. Ces nordistes, en vacances pour une semaine aux Émirats Arabes Unis, étaient dans leur hôtel quand le ciel s'est embrasé.
Il y avait quelques avions de chasse qui passaient au-dessus de l'aéroport d'Abu Dhabi. Et puis les missiles qui tombaient inertes mais en feu, au bord des plages, sur les immeubles. Et puis voilà quoi. On a eu peur quand même parce que c'est alerte, on n'a pas l'habitude de ça. Tous les téléphones qui sonnent partout vont aussi protéger les enfants pour qu'ils d'entendre le moins possible ce qui se passe.
Même expérience pour cette famille. Aurélien, le papa, a donc décidé d'expliquer le conflit en cours à ses deux enfants.
On a entendu beaucoup d'avions de chasse. On voyait les avions de chasse passer. On entendait beaucoup de bombardements. On entendait du bruit. L'hôtel a tremblé hier après-midi, bien évidemment. Donc on est extrêmement content de revenir ce soir. Surtout pour les enfants qui s'inquiétaient, bien évidemment, depuis 3-4 jours. On en parle, on ne peut pas leur cacher hein, parce qu'ils sont là, parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils entendent ce qui se passe. Ça tournait en boucle à la radio. On leur cache pas les choses, on leur explique. Et puis on prend une carte du monde et on leur explique un petit peu ce qui se passe. Voilà, on essaie de les rassurer.
Clotilde, 11 ans, Théophile, 9 ans, avait hier soir le regard dans le vide en sortant de l'avion.
J'étais très, 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 très stressée. Au début, je comprenais pas grand-chose. Mais ensuite, j'ai compris qu'il y avait une guerre.
Audrey et Cléo, ces deux Avignonnaises, mère et fille, ont été, elles, confinées dans leur hôtel à suivre les événements jusqu'à saturer.
Moi, j'étais tout le temps genre sur Le Monde, sur l'application Le Monde. Et après, les infos, le soir sur la télé. Enfin, en fait, c'était le seul truc qu'on peut faire, quoi.
Au bout d'un moment, j'ai évité, en fait, de regarder. Parce que je me suis dit, tant qu'on n'avait pas de billet retour, ça servait à rien de s'angoisser, en fait. Et puis là, on a eu vraiment la chance. Je pense qu'on est l'un des premiers avions à avoir décollé. Hein.
Le patron des aéroports de Paris prévient que ces perturbations vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Et ne rejoignez pas spontanément les aéroports, insiste l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis. Plusieurs compagnies reprennent effectivement leur activité, mais à ce stade, elles contactent elles-mêmes leurs clients pour organiser leur retour. Le rapatriement des Français également au menu de ce troisième conseil de défense organisé autour d'Emmanuel Macron hier soir.
Ce mardi, c'est une météo printanière qui ressemble eh bien, au printemps et qui s'installe sur la majeure partie du pays avec un soleil généreux sur toutes les régions, ou presque. En début de matinée, soyez prudents si vous prenez la route, on note des brumes et des brouillards par endroits qui réduiront considérablement la visibilité. Vigilance donc. À noter également quelques petites gelées en campagne et toujours ce ciel couvert qui va persister tout au long de la journée sur le Languedoc-Roussillon. Pour le reste du pays, ciel bleu, dégagé au programme. Ce matin, des températures clémentes. Il va faire 4 à Dijon, 7 à Bordeaux, 6 à Paris, 11 à Montpellier. Et puis dans le courant de l'après-midi, le soleil sera toujours au rendez-vous sur l'ensemble du territoire, à l'exception donc du Languedoc-Roussillon, où le ciel sera de plus en plus chargé. Quelques températures. Cet après-midi, il fera 18 à Paris et Nantes, 16 à Strasbourg et 18 à Marseille. Et chez vous, comment ça se passe? Eh bien, vous nous l'écrivez sur la page Facebook d'ici, comme l'a fait Michel de Cahors dans le Lot, chez qui il fait 7 degrés ce matin. Salut à toute l'équipe, nos écrit-il. Véro de Cherbourg qui nous poste une photo de la mer. Chez elle, il fait 6 degrés ce matin. Je vois des nuages passer devant la lune, nous écrit-elle. Enfin, Martine en Alsace a relevé 1 degré ce matin. Chaque matin, dès 5 heures, on fait la météo ensemble. Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
C'était en fin de semaine dernière, la chanteuse Angèle, qui sort un tout nouveau single, a déclaré que Mylène Farmer l'avait beaucoup inspirée musicalement pour composer. Bah, ça tombe bien, ce matin, voici Mylène, l'une des chansons qui a fait sa renommée. Pourvu qu'elle soit douce, on vous le souhaite doux, ce réveil, ce mardi matin. Bonne journée, il est 5h36.
Ton bout du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Ton Kama Sutra a bien 100 ans d'âge, mon Dieu que c'est démodé. Le n'est plus ultra en ce paysage, se démêler de côté.
Merci, on vous souhaite un bon réveil. Il est 5h40.
Ici, dès 5h,
Johan Rock,
Valentine Letess.
Et le matin, on ne se laisse pas abuser par les arnaques en tout genre. Ce mardi, gare aux revendeurs de colis perdus, Valentine.
Ouais, le filon de ces colis revendus à l'aveugle avec un prix fixé au kilo attire les escrocs, mais les clients sont aussi nombreux à déchanter.
Et puis côté musique, eux deux, c'est pas une arnaque. Calogero, soprano, prends ma main pour ambiancer votre début de journée. Nous accueillons sur l'antenne d'ici Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Bonjour Johan. Bonjour Valentine.
Vous nous appelez d'Alsace. Comment s'appelle votre commune ?
À Wolfsheim.
Bon.
Heureusement que c'est vous qui l'avez dit, Marie.
Vous travaillez dans un parc d'attractions, vous ?
Oui. Oui, je travaille en Allemagne, à Europa Park.
D'accord.
À Rodantica, exactement.
La chance !
Vous-même, vous êtes fan de manège ?
Oui, la chance.
C'est trop bien, Europa Park. Vous y êtes déjà allé, Johan ?
Jamais.
Moi, j'ai l'impression d'être en vacances tous les jours.
Donc, vous êtes fan de manège. Quel est le manège à la sensation le plus incroyable dans ce parc ?
C'est le Voltron. Et puis, moi, je suis dans la partie aquatique. Alors, ce sont les toboggans, là, qui sont très rapides, là. Mais bon, ils ont des noms qui sont norvégiens. Alors, j'ai bien un peu du mal à les prononcer.
Bon. Pourtant, vous êtes forte pour prononcer les noms alsaciens. Alors, le norvégien, ça ne devrait pas vous poser de problème, Marie.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils sont particuliers, leurs noms. Hein,
bon, ce matin, on va vous envoyer un poste de radio particulier, puisque c'est celui d'ici, aux couleurs de votre station locale. Il fait tout, il est robuste, il a des piles, il fait l'heure.
Il supporte l'eau
Oui, parce que vous êtes fan de natation, hein, Marie.
Je vous écoute tous les matins quand je prends mon petit déjeuner avant d'aller travailler. Alors j'ai déjà la bonne humeur.
Bon, écoutez, merci de nous avoir appelés. On vous envoie ce poste de radio en Alsace et puis on vous souhaite une excellente journée, Marie. Ça se passe comme ça tous les matins ici, il est 5h42.
La REF.
Franck Dubosc a une passion pour Belmondo et les vacances au camping. François-Xavier de Maison, lui, c'est les phrases Tagada. Et vous, c'est quoi vos rêves ? Hein ? Vos références qui ont le goût de votre jeunesse.
Valérie Damidot.
Dans mon studio, avec des canapés bien confortables, des photos d'affiches de films, des bonbons. On parle des années 70, 80, 90. Parce que les références de mes invités, eh bien, c'est aussi vos références.
La REF, un nouvel épisode chaque mois. À écouter sur l'appli Radio France ou à regarder sur YouTube. Ici, dès 5h.
Pour bien commencer la journée.
5h43, c'est le moment de retrouver ici, c'est pas vrai, votre rendez-vous anti-arnaque avec vous, Valentin Bertrand. Aujourd'hui, trouver un smartphone, un ordinateur ou un objet high-tech pour une poignée d'euros, c'est l'espoir sur lequel s'appuient les revendeurs de colis perdus, mais dans certaines boutiques, le client ressort toujours perdant.
Oui, le filon de ces colis abandonnés ou perdus, revendus à l'aveugle à un prix fixé au kilo, attire des escrocs sur Internet. De nombreux clients déchantent. Ils ont dépensé des dizaines d'euros pour des charnières de porte, une multiprise, un bracelet bas de gamme ou encore des coques de téléphone d'ancienne génération. Des objets devenus inutiles qui reviennent finalement plus cher que leur prix dans le commerce. Alors oui, dans certains cas, c'est juste la faute à pas de chance. Mais on peut parfois avoir de sérieux doutes sur la provenance de ces colis. Des professionnels ont révélé la combine, acheter des stocks d'invendus à un grossiste pour une bouchée de pain, les emballer pour les maquiller en faux colis perdus et les revendre ensuite à un prix bien plus élevé.
Justement, Valentin, comment détecter ces arnaques ?
Déjà, regardez les prix. En dessous de 10 euros le kilo, c'est trop beau pour être honnête. Si l'approche par contre des 50 euros, c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez aussi demander au vendeur quels sont les moyens de paiement acceptés. S'il ne prend que l'espèce, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Mais il y a un autre indice qui ne trompe pas. Regardez les cartons et les étiquettes. Vu le nombre de sites internet, Amazon, AliExpress, Wish, la Fnac, tous les colis ne doivent pas se ressembler. Si c'est le cas, fuyez, ça sent vraiment la mauvaise surprise.
Merci Valentin. Ici, arnaque@radiofrance.com si vous souhaitez nous alerter sur une arnaque que vous avez repérée, puis ici.fr pour retrouver tous les liens utiles de cette chronique. Eux, on ne les avait jamais entendus ensemble. Calogero, Soprano sont ici ce matin pour vous réveiller. Il est 5h45.
Des existences en panne d'essence.
naissance, tassé en vrac, sur un zodiac, dans le ressac, des chaussures dans un sac. Aura des lampes, des vies qui tentent de s'accrocher à des rochers. Est-ce un péché de repêcher des semblable. Dans un regard pris dans l'effort, il y a l'espoir et tant d'histoire. Une terre qui brûle ou des fusils qui hurlent. Prends ma main, mon frère. Mon air, c'est ton air. Maintenant, nous sommes de la même mer.
Pêcheur parmi des cris lancés, des images aux 20 heures qui m'avaient bouleversé. Cette main tendue, je l'ai donnée juste en pensée. Je sais, c'est une goutte d'eau dans une mer traversée. Traverser des drames ou bien traverser des fleuves. Traverser des mers ou traverser des épreuves. Sans distinction de nation, de couleur, de classe. Un homme à l'eau, c'est toute la terre qui boit la tasse.
Journée, vous écoutez ici, il est 5h48. Merci d'être né d'autre ce matin. Chaque matin, ici, on parle de ce qui fait votre quotidien, l'actualité qui marque votre journée en compagnie de l'équipe d'Ici Matin. Bonjour.
Bonjour Yoann, oui, alors à Toulouse et en Occitanie, l'actu d'ici, c'est un film à voir cette semaine au cinéma, Mathieu Ferry.
Oui, il sort demain, il s'appelle Rural, un film d'Edouard Bergeon qu'on connaît notamment pour Au nom de la terre. Et au cœur de ce film, il y a un personnage qu'on connaît bien évidemment, c'est Jérôme Bail, l'éleveur de Montesquieu-Volvestre, le fondateur des Ultras de la 64, avec notamment... le barrage de carbone, mais pas que.
Et d'ailleurs, je crois qu'on voit un bout de ici Occitanie en direct du barrage de carbone.
Exactement.
Côté météo, écoutez, c'est calme. Je regarde les températures. La Météo France vient de relever un petit 4 degrés dans le Comminges, 5 dans le Tarn-et-Garonne. On a 6 à Agen, 7 au cœur du Tarn et dans le Lot à 5h du matin. 8 à Luc-la-Primaube-Fronton. On a 9 à Condon, 10 à Villefranche-de-Lauragais, 11 à Muret et déjà 11,7 à Toulouse. Donc, de 4 à 11,7, faites votre choix. Un ciel plutôt voilé. Aujourd'hui, c'est un peu comme hier, hein. On a un peu de soleil et beaucoup de vent d'autant, toujours de la douceur aussi à 16h, parce que je regarde les températures au goûter. On attend à Aigues-Vives 14 degrés, à Carmaux-Colomiers et aussi à Balma, au quartier Patedois à Toulouse, prévoyez 16 degrés, à Rieux-Volvestre et Vaquier 17, et Molière dans le Tarn-et-Garonne, 19 degrés. Vous laissez bien sûr vos petits messages sur la page Facebook de Ici Occitanie au message météo. Et puis, aujourd'hui, vous savez que les Toulousains auront la chance d'observer une éclipse totale de lune d'une intensité exceptionnelle, un phénomène qui survient lorsque la Terre s'aligne parfaitement entre le Soleil et notre satellite naturel. On s'en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a aussi une lune rousse précisément. Johan, à tout à l'heure.
Ici, dès 5h.
5h49, à la une de la presse ce mardi, on voyage autrement, Valentine.
Avec une série à découvrir tout au long de la semaine dans les pages du quotidien La Croix. Ce matin, avec notre invité, on parle du retour en grâce du vélo.
La bicyclette qui serait la tendance voyage du moment chez les jeunes. Bonjour Charlotte de Frémont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Dans cet article consacré au vélo, vous parlez du nouvelle école de vie. Pourquoi les jeunes gens, aujourd'hui, aiment-ils à ce point ce moyen de transport ?
Il y a plusieurs motivations, en fait, pour ce jeune public qui court de 20 à 40 ans. C'est généralement un profil de jeune urbain, assez diplômé, qui évolue dans des catégories socioprofessionnelles assez favorisées. Et donc, ils vivent dans un quotidien qui est souvent ultra connecté. Et donc, pour eux, le voyage à vélo est une sorte, en fait, de test personnel. Ils recherchent une forme d'émancipation et ils disent aussi que ça les responsabilise beaucoup.
À quand remonte cet engouement pour le deux-roues ? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui l'a déclenché ?
Alors, c'est une tendance, en fait, qui dure depuis une dizaine d'années, notamment avec le rajeunissement un peu de l'image de la bicyclette et la modernisation, en fait, des différents équipements. Mais il y a eu effectivement un tournant majeur avec le Covid et le regain d'intérêt post-Covid pour les activités en extérieur, surtout auprès de cette jeune population.
Rajeunissement, c'est-à-dire que le vélo, la bicyclette, comme on disait à l'époque, a longtemps eu une image un peu désuète, un peu ringarde. Il a fallu la dépoussiérer.
Oui, et en fait, c'est passé par plusieurs aspects, donc notamment par la bicyclette a aussi un peu pris d'assaut les réseaux sociaux, mais aussi c'est passé dans une nouvelle philosophie du voyage à vélo qui s'appelle le bikepacking.
C'est quoi le bikepacking ?
C'est le principe de n'emmener que le strict nécessaire. Donc, c'est-à-dire que des sacoches qui pesaient une quinzaine de kilos, aujourd'hui ne pèsent pas plus de 5 kilos.
La motivation première, c'est le côté économique ou au contraire, ça peut être coûteux un voyage à vélo dans ce cadre-là ?
C'est coûteux à l'investissement. On parlait tout à l'heure d'évolution du matériel. Aujourd'hui, le Gravel, qui est un modèle de vélo tout nouveau, qui devient très populaire, coûte au minimum 700 euros en magasin spécialisé. Ça reste quand même un investissement d'entrée. Par contre, pendant le voyage, c'est vrai que ce sont des vacances qui ont un moindre budget, donc ça représente effectivement une première motivation pour ces jeunes, mais ça fait pas tout.
Si je résume, c'est une nouvelle forme de voyage dite minimaliste, mais qui échappe pas à un certain phénomène de mode, et la mode, ça se paye quand même.
Exactement.
Cet engouement pour le vélo, il engendre un développement des pistes cyclables, des itinéraires adaptés à ce moyen de transport ?
Oui, tout à fait. Il y a eu un essor très important des véloroutes. Par exemple, il y a une dizaine d'années, il n'en existait qu'une, la véloroute de la Loire. Aujourd'hui, il y en a plus de 20 000 km en France. Et d'ailleurs, la France se voit première destination du cyclotourisme en 2030. Donc il y aura encore normalement des nouveaux aménagements qui sont prévus. Mais il y a effectivement déjà des infrastructures qui existent et qui ont permis à un public un peu plus important, comme des jeunes parents, effectivement, de prendre la route beaucoup plus facilement.
Voyager autrement, c'est donc cette série à découvrir tout au long de la semaine dans les pages de La Croix. Merci Charlotte de Frémont d'être passée ce matin dans le téléphone d'ici.
Merci à vous.
Et après le vélo, le téléphone a clapé lui aussi de retour. Décidément, en 2026, la mode, c'est d'être rétro. C'est dans un instant, ici, juste après Lynn Marlin.
Not really hiding, not like a shadow. Just thought I
écoutez ici, 5h56, juste avant de retrouver vos infos locales et le journal de 6h, c'est Tendance, votre rendez-vous entre info et humour avec vous, Muriel Jourdan, ce mardi. Vous nous dites que le téléphone à clapet fait son grand retour.
Oui, c'est le retour d'un ancêtre qu'on connaît bien, le téléphone à clapet, baptisé aussi flip phone. Pour rappel, le téléphone à clapet, c'est un téléphone basique, pas connecté à Internet, et quand tu raccroches, t'as l'impression de fermer les volets. C'est la simplicité même. Tu téléphones, tu envoies des SMS.
Simple, basique.
De plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes troquent volontairement leur smartphone pour ce genre d'appareil qu'ils trouvent aussi stylé. Donc, je m'adresse ici à tous les parents et grands-parents qui nous écoutent. Si vous ressortez vos vieux appareils de type BlackBerry, vos enfants ne vous traiteront pas de vieux cons. Parce que sur les réseaux sociaux, ces vieux téléphones sont à la mode.
Avec mon dumbphone, je suis moins dépendant de mon téléphone. Mais ça m'a aussi permis de faire plus d'activités, ce que je galérais à faire avec mon ancien téléphone.
Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le Clap Facile 3. Donc, un téléphone juste pour téléphoner.
2h30, c'est le temps que je passais tous les jours sur mon téléphone. Sauf qu'il y a un moment où je me suis demandé, mais est-ce que ce temps que je passe sur mon téléphone, il est réellement productif ?
Aujourd'hui, j'ai décidé de passer un mois avec un téléphone à clapet.
Tout ça illustre encore un phénomène de plus en plus documenté, les effets néfastes des écrans, notre dépendance au smartphone, aux applis, au scrolling.
Et alors, les ados qui se baladent avec un vieux téléphone veulent avant tout aussi s'affranchir des réseaux sociaux, tout en restant quand même joignables à un minimum.
Oui, ils sont conscients des bénéfices sur leur sommeil, sur leur qualité de vie. Et il y a un petit côté vintage dans les téléphones à clapet. Il y a 3 ans, des milliers de vidéos annonçaient la sortie du téléphone à clapet Barbie, tout rose, devenu la coqueluche des influenceurs. L'influenceuse Esterium, de son vrai nom Diane Benamou, vulgarise la tech sur les réseaux sociaux et elle a analysé ce phénomène.
Le problème aujourd'hui avec les nouvelles générations, c'est qu'on a tué l'ennui. Dès qu'il y a 3 secondes de vide, on sort le téléphone. On ne laisse plus notre cerveau se mettre en veille. Du coup, si la Gen Z achète ses vieux portables, c'est une stratégie de survie. Ils payent pour acheter du silence. Ils payent pour avoir le droit de ne plus être notifiés.
Bon, y a quand même une nostalgie des jeunes pour ces années qu'ils n'ont pas connues, celle d'un monde sans téléphone portable, avec un bon vieux téléphone filaire, une cabine téléphonique, le beau teint, un monde plus libre pour ces lycéens à qui j'ai tendu mon micro.
C'était tant plus simple, il y avait moins de technologie, on s'amusait avec très fun, très pas prise de tête. On est trop sur nos téléphones, on profite pas assez de la vie comme si on était dans les années 80.
T'aurais aimé vivre dans les années 90?
Ah oui, vraiment. Parce que j'adorerais en fait voir un monde où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de « oh, qu'est-ce que je vais poster sur Instagram ?»
Bref, le téléphone à clapet, c'est tendance. Le mot-clé « flip-phone » engrange d'ailleurs près d'1 milliard de vues sur TikTok. Reste à savoir comment ces internautes ont pu filmer et poster leurs vidéos avec un téléphone à clapet.
À demain, Muriel Jourdan, pour un nouveau C'est Tendance, ici.fr, pour retrouver toute la collection en replay. Vous avez un téléphone à clapet, vous ?
Non, j'en ai eu un. Ça me fait regretter en tout cas mon vieux Nokia 3310.
Claudio Capéo n'a pas de téléphone à clapet. Et jeudi, 21h, il sera en concert ici live, un concert qui a été enregistré dans les Alpes, à la station Les Angles, une configuration intimiste. Il sera avec quelques musiciens seulement et muni de son accordéon fétiche. En attendant, on vous souhaite une excellente journée. On vous retrouve à 6h30, Valentine. Et toute l'équipe d'ici matin vous rejoint à vos côtés.
Merci beaucoup, Johan. Moi, je voudrais qu'on parle de la lune, la fameuse lune rousse. Moi, je la trouve pas très rousse, moi. À quoi elle ressemble, votre lune, là? Vous pouvez, enfin.
Elle s'est fait une couleur.
Vous envoyez des photos sur WhatsApp. Je vous redonne le numéro de téléphone. 05 34 43 31 31. Vous savez, vous pouvez nous envoyer des petits messages aussi WhatsApp. Je veux voir votre lune. Allez-y.